9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Alors que nous, le variant Omicron nous promet un véritable raz-de-marée de contamination, à quoi faut-il s'attendre? L'épidémiologiste Pascal Crépet est mon premier invité ce matin. Il va nous le dire. Je recevrai ensuite un jeune écrivain, François-Henri Désérable. C'est l'auteur de « Mon maître et mon vainqueur », l'un des meilleurs romans de la rentrée, qui renouvelle notre vision de la passion amoureuse. Et l'on terminera cette dernière émission de l'année avec Anne Lorsol, la commissaire de l'exposition du Musée Carnavalet, consacré à Marcel Proust, dont on commémorera en 2022 le 100e anniversaire de la mort.
Europe 1.
Le variant Omicron se répand donc en Europe et en France. Notre pays enregistre près de 60 000 contaminations par jour, du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Au Royaume-Uni, on approche les 90 000. Pascal Crépet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Omicron serait déjà responsable de 20% des nouvelles infections chez nos voisins britanniques. En France, est-ce qu'on sait combien ?
Alors, en France, Santé publique France nous disait il y a quelques jours qu'il y avait à peu près 300 cas confirmés. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'il faut du temps pour confirmer les cas et que l'on ne voit qu'une partie, en fait, de toutes les infections. Donc, il est probable que l'on soit plus autour du millier d'infections que autour de quelques centaines.
Les Anglais font du séquençage de virus à beaucoup plus grande échelle que nous. Eux, ils trouvent 20% des nouvelles infections. Si ça se trouve, on est à 20%, peut-être même à 50%.
Alors, peut-être. Et c'est vrai que les Anglais sont capables de faire jusqu'à 40 000 séquençages par semaine, qu'ils sont très bien organisés depuis longtemps, alors que nous sommes juste au début de cette organisation en consortium et que la capacité de séquençage n'est vraiment que de 5 à 7 000 séquençages par semaine. Néanmoins, il y a quand même peu de chances que l'on soit au niveau de propagation des Anglais. L'épidémie et la détection, alors certes, est meilleure, mais néanmoins, on est quand même capable d'avoir une image, et l'image que l'on a nous montre que la proportion reste quand même inférieure, que l'épidémie de ce variant Omicron a commencé un peu plus tard sur notre territoire.
D'après les données britanniques, Omicron est 3 ou 4 fois plus contagieux que Delta, le variant indien, qui était déjà beaucoup plus contagieux qu'Alpha, le variant anglais, qui était bien plus contagieux que le variant originel, qui était déjà suffisamment contagieux pour causer en 2020 une pandémie mondiale. Autant dire que c'est plié, hein. Omicron sera majoritaire en France d'ici peu.
Oui, ça fait partie des éléments sur lesquels les épidémiologistes et les modélisateurs comme moi avons peu de doutes, malheureusement. Comme vous venez de le dire, il a un avantage de transmission qui est confirmé dans toutes les données que l'on a pu observer dans différents pays. En plus de ça, il est capable plus facilement de réinfecter des personnes que l'on croyait immunisées jusqu'à présent. Donc il va pouvoir circuler dans des populations dans lesquelles Delta n'était pas capable de se transmettre. Et donc, et les temps de doublement de l'épidémie qui sont observés, que ce soit au Royaume-Uni ou au Danemark, sont extrêmement inquiétants, puisqu'on parle de moins de 3 jours de temps de doublement. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 jours, le nombre d'infectés double au Royaume-Uni. Et au Danemark, c'est peut-être même encore moins que ça en termes de temps de doublement. Donc, cette vague va être très rapide. Et d'ailleurs, certains ne parlent plus de vague, mais vraiment de mur.
Pascal Crépet, la France a fermé ses frontières avec le Royaume-Uni le 18 décembre. Ça ne vous semble pas un peu puéril ? Aucun variant ne s'est jamais arrêté à une frontière. Si le variant brésilien Gamma ne s'est pas répandu en France, c'est parce qu'il était moins contagieux qu'Alpha. Le variant britannique est alors majoritaire. C'est pas parce qu'on a suspendu les vols en provenance du Brésil.
Oui, vous avez raison. Une fois que le variant est arrivé sur le territoire, une fois qu'il y a des foyers auto-entretenus, la dynamique de propagation, elle est gouvernée par ce qui se passe sur le territoire et pas par les importations éventuelles de nouveaux cas depuis l'extérieur. Alors, fermer les frontières aussi tardivement, bon, ça permet quand même éventuellement d'éviter quelques clusters, mais ce n'est pas le fait d'éviter ces clusters qui va freiner la propagation du variant sur notre territoire, malheureusement.
Et peut-on rendre responsables les non-vaccinés de la flambée actuelle des contaminations, alors que les vaccinés peuvent aussi transmettre le virus et que les vaccinés sont beaucoup plus nombreux que les non-vaccinés?
Oui, alors c'est vrai que depuis le. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vague dans laquelle nous sommes actuellement, c'est encore la vague de variant Delta. Et depuis que l'on sait que les vaccins, en fait, ont une protection qui diminue dans le temps contre l'infection, et qu'au bout de 6 mois, on est peut-être seulement autour de 50% de protection contre cette infection. Bah, ça veut dire que toutes les personnes qui se sont fait vacciner il y a plus de 6 mois et qui n'ont pas encore fait leur dose de rappel, bah, parmi toutes ces personnes, 50% peuvent être infectées. Donc effectivement, le virus peut largement circuler dans ces populations, moins facilement, hein, parce que ces populations sont quand même partiellement protégées, mais il peut circuler dans ces populations. Donc même si ensuite le fardeau hospitalier va être différent, au niveau de la circulation et des contaminations, malheureusement, les vaccinés qui ne sont pas boostés bah, peuvent être un support de transmission.
Et peut-on rendre responsables les non-vaccinés de l'engorgement des hôpitaux?
Alors, pour l'engorgement des hôpitaux, là déjà un peu plus, parce que ce que l'on observe assez clairement, c'est que même si la protection liée au vaccin contre l'infection diminue dans le temps, la protection contre les formes graves, elle reste assez stable, au-delà de 80%. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui fait que les personnes vaccinées, même s'ils sont infectées, eh bien, vont moins fréquemment aller à l'hôpital, ce qui n'est bien sûr pas le cas des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde la proportion de personnes vaccinées et non vaccinées dans les hôpitaux, bah, celle-ci ne correspond pas à la proportion de vaccinés dans la population générale. On voit beaucoup plus de personnes non vaccinées dans les hôpitaux que de personnes vaccinées, même si il y a quand même des personnes vaccinées dans les hôpitaux. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si toutes les personnes dans les hôpitaux qui ne sont pas vaccinées avaient été vaccinées, eh bien, une bonne partie d'entre elles ne seraient pas à l'hôpital et donc on réduirait le fardeau hospitalier.
Pascal Crépet, ne quittez pas, on se retrouve juste après une pause. J'ai encore d'autres questions à vous poser, bien entendu.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec l'épidémiologiste Pascal Crépet, Omicron. Donc, nous allons vivre notre deuxième Noël avec le Covid et notre deuxième campagne électorale après les municipales de 2020. Pascal Crépet, Omicron aujourd'hui, à quel point est-ce qu'il rend les vaccins moins efficaces, que ce soit contre l'infection, contre la transmission et contre les formes graves?
Alors, vous avez raison de différencier ces différentes formes de protection. Contre l'infection, ce qui est observé au Royaume-Uni, c'est que on n'aurait plus que 30 à 40% de protection contre l'infection d'Omicron lorsqu'on n'a que 2 doses de vaccin à ARN messager. Cette protection est beaucoup plus faible si on était vacciné avec AstraZeneca ou Johnson & Johnson. En revanche, contre les formes graves, on reste à un niveau, bon, pas suffisant, mais quand même plus élevé, de 70% de protection contre les formes graves, là encore, avec 2 doses de vaccin à ARN messager. Donc, malheureusement, cette baisse de protection est problématique parce que ça veut dire que ce variant peut circuler dans ces populations. Et puis, 70%, ça paraît bien, mais c'est beaucoup moins que les 80 ou 90% que l'on avait auparavant. Et donc, potentiellement, on triple la proportion de personnes vaccinées qui peuvent faire des formes graves.
Alors, Omicron semblerait provoquer des symptômes bien moins sévères que Delta. Mais est-ce qu'on en est certain? Parce que les premiers à l'avoir attrapé en Afrique du Sud, ils étaient beaucoup plus jeunes que la moyenne.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a tous appelé vraiment à la prudence sur l'analyse de ces premiers résultats en Afrique du Sud, parce qu'à la fois la population d'Afrique du Sud est plus jeune, hein, on est sur une moyenne d'âge autour de 27 ans, alors qu'en Europe on est plutôt autour de 41 ans, d'une part, et puis le profil d'immunité en Afrique du Sud est un peu différent parce qu'ils ont eu des vagues très importantes et on parle de 70% de la population qui aurait déjà été infectée. Donc le profil immunitaire est aussi différent. Et il y a une étude donc, qui est parue il y a quelques jours en Afrique du Sud qui montrerait que le variant Omicron aurait une sévérité réduite de l'ordre de 30% par rapport aux variants précédents. Mais quelques jours plus tard, ou quasiment en même temps, une étude au Danemark montrait que malheureusement, ils ne voyaient pas de différence sur la sévérité entre Omicron et Delta sur leur population. Donc malheureusement, on est très certainement sur un variant alors qui est peut-être un peu moins sévère, mais pas suffisamment moins sévère pour que ce ne soit pas un problème. Le Royaume-Uni, par exemple, a fait des analyses et montre qu'avec sa capacité de transmission, il faudrait qu'il soit de l'ordre de 10% de la sévérité de Delta, de 10 à 30% de la sévérité de Delta, pour ne pas causer un raz-de-marée à l'hôpital sans aucune autre mesure. Et on semble malheureusement très loin de cette baisse de sévérité pour Omicron.
Oui, il faut voir que s'il est 3 ou 4 fois plus contagieux, hein, comme semblent le montrer les études anglaises, hein, 3 ou 4 fois plus contagieux, Omicron, même s'il était 2 fois moins mortel, il risquerait de faire beaucoup plus de morts, c'est mathématique, car il y aura beaucoup plus de cas, hein. La contagiosité est un énorme problème.
Oui, parce que la contagiosité, c'est vraiment ça qui contrôle cette dynamique exponentielle. Quand un variant est 2 à 3 fois ou 4 fois plus contagieux, ça veut dire que bah, chaque personne infectée va faire 3 fois plus de cas secondaires, qui eux-mêmes vont faire 3 fois plus de cas secondaires. Et donc, on est sur une dynamique qui s'emballe très rapidement. Et donc, même si, comme vous venez de le dire, même s'il est moins sévère, ce qui malheureusement ne semble pas forcément être le cas, eh bien, on arrive à des choses qui peuvent être très compliquées en termes de fardeau hospitalier, et derrière de mort, malheureusement.
On s'approche de Noël, ensuite il y a le Nouvel An, et puis il y a cette campagne présidentielle qui fait que beaucoup de gens se rassemblent dans des lieux mal ventilés, où ils chantent, où ils crient. C'est un peu un cauchemar pour les épidémiologistes, non?
C'est quelque chose d'assez inquiétant. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On se retrouve d'une certaine manière un peu dans la situation dans laquelle nous étions en février 2020, face à une épidémie qu'on ne sait pas contrôler facilement, mais dans une situation peut-être un peu moins bonne, dans le sens où la population est extrêmement fatiguée de toutes les mesures de contrôle qu'elle a subies ces 20 derniers mois. Et donc, certainement, des autorités de santé qui ont la main qui tremble face à ce nouveau variant qui annonce des choses très mauvaises et une vague très peu contrôlable. Et donc, une situation vraiment, vraiment compliquée. Alors, bah, il y a quand même quelques éléments positifs, hein, dans cette histoire. Je ne veux pas saper le moral de tout le monde. La troisième dose semble vraiment nous conférer une meilleure protection face à ce variant. On revient à des niveaux de protection, notamment contre les formes graves, similaires à ce qu'on avait contre Delta. On a les vacances de Noël. Alors certes, il y a des regroupements familiaux, mais les vacances en général ont toujours été des moments qui ont contribué à ralentir la transmission. Et donc on peut espérer que parce que les gens ne vont pas aller travailler, parce que il va y avoir au final moins de brassage dans la population, ça va contribuer à ralentir un peu l'épidémie. Mais les semaines à venir vont forcément être compliquées.
Merci Pascal Crépet d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On fait une pause et on parle d'amour, de passion charnelle et de cruauté avec François-Henri Désérable qui a reçu cette année le Grand Prix de l'Académie française pour son roman « Mon maître et mon vainqueur ».
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Je vous avais reçu sur Europe 1 en 2015 pour votre roman Évariste, biographie romancée du mathématicien Évariste Galois. Aujourd'hui, c'est pour Mon maître et mon vainqueur qui a reçu le Grand Prix de l'Académie française et que je tiens moi aussi pour le meilleur roman de l'année. Mais bon, c'est à titre personnel. Hein. D'ailleurs, à la différence du jury de l'Académie, je n'ai pas lu tous les romans de la rentrée, loin de là. Mais vous avez du style, ce qui est rare, et vous avez su renouveler le thème éternel du mari, de la femme et de l'amant, plus le narrateur, en rendant tout ça énigmatique.
Ouais, j'ai essayé d'imaginer une histoire d'amour, une histoire de passion amoureuse entre un homme qui s'appelle Vasco, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de France, une femme, Tina, comédienne, deux enfants, qui est sur le point d'épouser le père de ses enfants. Et elle s'éprend de Vasco à un moment de sa vie où elle ne devrait absolument pas s'en éprendre. Et lors de son mariage, eh bien, on retrouve sur Vasco un revolver, qui est le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud, et un cahier sur lequel Vasco a écrit des poèmes. Et au juge d'instruction qui l'interroge, Vasco répond « Tout est dans les poèmes, vous n'avez qu'à lire les poèmes ». Le juge les lit, n'y comprend pas grand-chose, convoque donc le meilleur ami de Vasco, qui se trouve être aussi l'ami de Tina, qui est le narrateur, qui va se faire l'exégète de ce recueil de poèmes, dénouer les fils de cette passion amoureuse et aider le juge à résoudre l'enquête.
Mais pourquoi l'avez-vous intitulé « Mon maître et mon vainqueur » ?
Oh bah écoutez, Milan Kundera s'est accaparé tous les meilleurs titres pour les romans d'amour. L'insoutenable légèreté de l'être, Risible d'amour, La valse aux adieux. Et moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais bien emmerdé puisque je ne trouvais pas de titre. Et un jour, j'étais en train de lire un recueil assez méconnu de Verlaine, Chanson pour elle. Et je lis et tout. Es-tu douce ou dure? Est-il sensible ou moqueur ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et d'emblée, je me suis précipité sur Google pour vérifier que ce titre n'avait pas été pris et j'ai su que ça serait le titre de mon roman.
Mais ce n'est pas le cœur de la jeune femme qui est maître et vainqueur de votre roman, c'est son corps.
C'est son corps, c'est son cœur. C'est vrai que c'est un livre qui ne fait pas l'économie de scènes de sexe. Il m'arrive souvent d'être invité dans des lycées pour parler de mes livres. Ça m'est arrivé pour les précédents, pour Évariste, sur Évariste Galois, ce mathématicien de génie, pour un certain monsieur Piekielny, ce mystérieux voisin dont Romain Gary parle dans La promesse de l'aube. Et là, je n'ai pas été invité cette fois-ci pour ce roman, pour la bonne raison qu'il y a des scènes sexuelles, mais je ne voulais pas faire l'économie de ces scènes, puisque la passion amoureuse est aussi physique, et je ne voulais pas jeter une sorte de voile pudique sur la sexualité.
Mais on voit bien dans votre roman que ce que l'on appelle l'amour aujourd'hui, au fond, c'est le désir sexuel. Du temps de Verlaine, on faisait la différence.
L'amour, c'est le désir sexuel. La passion amoureuse est le désir sexuel. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour s'adonner à l'amour. Et cet amour passe forcément par des lèvres jamais rassasiées, des fièvres toujours ranimées, des corps à corps jusqu'au petit matin. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Mais je crois que l'amour peut être aussi dépourvu de sexe. L'amour, c'est l'assomption démentielle de la dépendance, comme dirait Barthes. C'est-à-dire que vous assumez le fait d'être totalement dépendant d'une autre personne. Alors parfois, vous pouvez être aussi dépendant de son corps.
Ouais. Le narrateur le dit dans le roman, hein, cette jeune femme ne vient pas combler un vide, elle vient en créer un.
Oui, c'est-à-dire que le Vasco en question, il lui semble qu'il a tout dans sa vie, il a un métier qui lui plaît, il est célibataire, ça lui convient très bien, il rencontre des filles de temps en temps. Et puis arrive Tina, et là il se rend compte qu'il y avait une pièce manquante, ce qu'il ne savait pas. Donc cette Tina vient créer un manque au lieu d'en combler un. Et à partir de là, eh bien, ça va être une sorte de débandade.
François-Henri Désérable, ce manque, c'est le désir qu'il crée, ce n'est pas l'amour, ni l'admiration qu'il pourrait avoir pour elle. Non, c'est l'attirance sexuelle, intellectuelle, esthétique.
Oui, je crois que cette attirance, ce désir qui va amener un immense désordre, n'est pas seulement sexuel, il est aussi intellectuel. Et d'ailleurs, ça n'est pas par sa beauté que Vasco va réussir à séduire Tina. De la même manière que vous vous souvenez de Belle du Seigneur, qui est peut-être le plus beau roman d'amour écrit au XXe siècle, et qui commence par l'arrivée de Solal qui cherche à séduire Ariane. Solal est très beau, il se grime en vieillard édenté pour la séduire par la seule force du verbe. Alors évidemment, ça ne marche pas. Mais là, Vasco va chercher à séduire Tina, non pas par sa seule beauté, d'ailleurs on ne sait pas s'il est vraiment beau, mais en lui montrant l'exemplaire original des poèmes saturniens de Paul Verlaine, parce qu'il sait qu'elle est une grande verlainienne, et il va l'emmener dans la réserve des livres rares et anciens à la Bibliothèque nationale de France.
Mais en vous lisant, on a l'impression que l'on est passé du mariage arrangé d'autrefois, le mariage d'intérêt, à la passion sexuelle d'aujourd'hui, sans que jamais ça se confonde avec l'amour. Au fond, l'amour, c'est ce que l'on éprouve pour ses enfants, pour ses parents, pour ses amis. C'est désintéressé, l'amour. Alors que ce dont vous parlez, vous, c'est une dépendance. C'est comme la drogue.
Est-ce que l'amour est désintéressé ? Je crois que l'amitié est une forme souvent inachevée de l'amour. C'est-à-dire qu'elle est dépourvue de cet élément sexuel. Je crois que l'amour entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, est forcément... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, je me contredis par rapport à ce que j'étais en train de dire il y a cinq minutes. C'est la preuve que cette question n'est pas tout à fait réglée. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit à peu près 200 pages pour essayer d'y répondre.
Et que c'est un roman et pas un traité.
Et ça n'est pas un essai, non, ce n'est pas les fragments d'un discours amoureux, hélas.
Heureusement, on fait une pause, François-Henri Désérable, on se retrouve juste après, on va continuer de parler d'amour, on va continuer de parler d'adultère.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec François-Henri Désérable qui publie chez Gallimard « Mon maître et mon vainqueur », un roman qui a reçu le Grand Prix de l'Académie française. L'amour que vous décrivez dans ce roman, c'est l'amour impossible. Elle est partagée, votre héroïne, entre l'amour conjugal et l'amour impossible.
Oui, je crois que la passion amoureuse est toujours impossible. La première acception de la passion, c'est celle du Christ, c'est-à-dire les souffrances enduré par le Christ. Et donc la passion amoureuse vient toujours avec son lot de souffrances, de supplices. Et cet amour entre Tina et Vasco, qui était improbable, devient de moins en moins improbable et de plus en plus impossible, puisqu'un mariage arrive, il le voit arriver avec terreur, avec fatalité. Et bien évidemment, on ne peut pas dévoiler ce qui va se passer, ce serait dommage.
Mais c'est justement pour ça qu'il est impossible, leur amour, et c'est certainement ce qui le rend très intéressant, plus intense peut-être.
Bah, je connais peu de romans d'amour, il n'y a pas de terzo incommodo.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que Roméo et Juliette, sans l'impossibilité du mariage ou de l'amour entre ces deux-là, ne donnent pas de roman. Madame Bovary, sans les amants, sans Léon et Rodolphe, vit une vie très paisible aux côtés de Charles et il n'y a pas de roman. Donc l'amour, en tout cas romanesque, est très souvent impossible. Et je crois qu'il reste encore à écrire le grand roman de l'amour conjugal, paisible, de deux êtres qui se seraient rencontrés à 20 ans, qui se seraient mariés à 30, qui auraient fait de beaux enfants, qui auraient mené une vie bien remplie et qui meurent dans leur lit d'une belle mort à un âge avancé, entouré des leurs.
Votre roman à vous, il est sur l'amour extra-conjugal, mais il montre bien aussi à quel point l'amour extra-conjugal est plein de contraintes. On ne peut pas se voir quand on veut, on est obligé de se cacher, de mentir, et c'est ça bien souvent qui le rend plus grisant, en apparence au moins, que le conjugalisme.
Alors vous dites qu'il est plein de contraintes, moi je trouve qu'il en est plutôt dépourvu. Ah oui, l'amour conjugal, pardon.
Non, l'amour extra-conjugal.
L'amour extra-conjugal serait plein de contraintes, moi je trouve qu'il en est plutôt dépourvu. Les contraintes, pour moi, sont dans l'amour conjugal, c'est-à-dire qu'il y a la pesanteur du tête-à-tête quotidien, il y a la trivialité qui rentre en compte dans l'amour conjugal. L'amour extra-conjugal, on ne se voit que pour s'adonner à l'amour. Alors les contraintes sont lorsqu'on rentre dans le cadre de la conjugalité, lorsqu'on rentre à la maison et qu'on doit essayer de dérober son emploi du temps à son compagnon.
Vous voyez comme c'est drôle, quand on écrit un roman, il y a plein de choses qui vous échappent parce que vous insistez visiblement involontairement sur justement les contraintes aussi de l'amour extra-conjugal, à savoir ce que je vous disais, le secret, le mensonge, les rendez-vous à heure fixe, on est obligé de se quitter ou pas, ou le lendemain.
Oui, mais qui sont des contraintes postérieures ou antérieures au moment où on se retrouve avec la personne avec qui l'on s'adonne à cet amour extra-conjugal.
Vous montrez bien aussi à quel point il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Si j'emboutis votre voiture, je vous dois des indemnités. Si je vous la vole, je irai en prison. Mais si je vous vole votre conjoint ou votre conjointe, je ne vous dois rien. Il ne vous reste que les yeux pour pleurer. Je ne sais pas là aussi si c'est volontaire ou pas, mais vous montrez cela, vous montrez cette injustice.
D'injuste et de terrible. Il y a une phrase de Suran que je cite assez souvent parce que pour le coup je la trouve très juste. Suran disait « Un amour qui s'en va est une si riche épreuve philosophique que d'un coiffeur elle fait un émule de Socrate ». Et c'est vrai que lorsqu'on est en proie à la passion amoureuse, au chagrin d'amour, à la tromperie, eh bien on peut réfléchir sur pas mal d'aspects de la vie et je crois qu'il y a un basculement qui s'opère dans la vie entre ce moment où on raille, on se moque des souffrances du jeune Werther, c'est-à-dire qu'on tient le chagrin d'amour pour quantité négligeable, et celui où, ayant éprouvé ces souffrances, on les fait siennes, on les endosse, on les comprend. Et le chagrin d'amour est quelque chose qui peut être absolument terrible, qui peut
y
être dévastateur.
Quand c'est votre rival qui en souffre.
Mais c'est dévastateur pour tout le monde. C'est dévastateur pour les trois parties.
La différence entre l'adultère d'hier et d'aujourd'hui, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est la boîte noire de tous les couples. Si on l'ouvre, on sait tout. La grande question, c'est pourquoi garde-t-on toutes les preuves dans son smartphone ? Pourquoi votre héroïne n'a-t-elle rien effacé, à votre avis ? Pourquoi a-t-elle pris le risque que son mari mette la main dessus et découvre sa double vie ?
Oui, ce grand, grand roman d'Orwell, 1984, qui avait prévu le télécran, c'est-à-dire que l'État pouvait contrôler nos moindres faits et gestes, mais ce que Orwell n'avait pas prévu, c'est que c'est de notre plein gré que ce télécran serait finalement dans notre poche et tous nos moindres faits et gestes sont aujourd'hui consignés dans ce petit objet. Et l'une des raisons pour lesquelles, sans doute, Tina n'a pas pris la précaution d'effacer les traces de cet amour extra-conjugal, c'est que finalement, il faut qu'il y ait absolument garder quelque chose de tangible. Et puis peut-être jouer avec le feu, c'est-à-dire que la griserie de l'amour extra-conjugal vient de ce qu'elle peut être découverte.
La morale de votre roman, pour moi, c'est que tout est une question d'antériorité, de timing, ce que vous appelez le kéros. C'est du moment de la rencontre que dépend tout le reste. Si elle avait rencontré l'amant avant le mari, ce serait l'amant qui serait peut-être le père de ses enfants et le mari serait peut-être devenu son amant.
Est-ce que c'est un roman moraliste ? Je ne sais pas. Les morales, moi, je les laisse aux fables de La Fontaine. L'une de celles que je préfère, c'est « Garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine ». Et ce que j'ai voulu faire dans ce roman, c'est essayer justement de ne juger ni la femme adultère, ni l'amant, ni le mari. J'ai voulu décortiquer la passion amoureuse dans toutes ses facettes et je vous laisse le soin de tirer la morale que vous avez envie d'y trouver.
Merci François-Henri Désérable, mon maître et mon vainqueur, c'est paru chez Gallimard. On se retrouve juste après une pause, on va parler d'un autre écrivain, c'est Marcel Proust, dont on fêtera le centenaire de la mort l'année prochaine. Une grande exposition lui est consacrée au musée Carnavalet.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les Français adorent Marcel Proust, même quand ils ne l'ont pas lu. Pour un pays qui vénère la littérature, c'est l'écrivain tel qu'on l'imagine, intelligent, raffiné, malade, vivant enfermé chez lui après avoir été très mondain, travaillant la nuit sur le roman Total. Un peu maudit aussi, puisqu'aucun éditeur n'a voulu du premier volume de La Recherche. Marcel a dû le publier à compte d'auteur. Anne-Laure Sol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et la commissaire de l'exposition consacrée à Proust au musée Carnavalet, le musée d'histoire de la ville de Paris, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance en 1871 et du centenaire de sa mort en 1922. On peut y voir la chambre de l'écrivain, où il a composé la plus grande partie de La Recherche du temps perdu, dans son lit en laiton, dormant le jour, écrivant la nuit. Il faut dire qu'il souffrait d'un asthme sévère. C'est probablement le lit le plus important et le plus célèbre de toute l'histoire de la littérature.
Oui, absolument. Il y a une dimension mythique qui est attachée à ce lit, qui pourtant est d'apparence extrêmement modeste. Il incarne l'image de Proust écrivant toute la nuit, jusqu'à des heures avancées d'ailleurs de la journée. Il est aussi le lit où il a souffert, souffert pour créer. Et je pense que cela contribue aussi à cette dimension mythique. Une anecdote, lorsque ce lit a été restauré, les équipes en charge de, justement de la restauration de ce meuble ont retrouvé sur les montants en laiton du lit des scories de poudre Le Gras, vous savez, le médicament à la datura qu'il inhalait avant de sortir au réveil.
Aujourd'hui, grâce à Internet, à la télévision et à la radio, bien sûr, le monde rentre chez nous sans problème. Du temps de Proust, on ne se documentait pas si facilement. C'est avec donc sa mémoire, quelques guides de Paris, quelques livres d'images, des journaux et son imagination qu'il a écrit quasiment confiné les 4000 pages de la recherche.
Oui, alors c'est une idée qu'il convient de nuancer quand même, hein, parce que Proust n'est pas l'ermite qu'on imagine. Vous l'avez souligné, il a une vie mondaine extrêmement intense jusqu'à la mort de ses parents, au moment où il s'installe seul, boulevard Haussmann en 1906. Mais il continue ensuite, lorsqu'il vit seul, d'abord avec le couple de domestiques, les Cottin, puis ensuite avec les Albaret, dont la fameuse Céleste, à sortir énormément, plusieurs soirs par semaine, à être un immense lecteur de la presse. Effectivement, vous l'avez dit, à se documenter beaucoup à partir de livres d'histoire, de chroniques consacrées à Paris. Ce n'est pas une génération totalement spontanée que la recherche du temps perdu.
L'exposition s'intitule Marcel Proust, un roman parisien. Paris, c'est une ville qu'il n'a presque jamais quittée et où il s'est cantonné à certains quartiers. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, donc, on le sait maintenant, Proust est exclusivement un homme de la rive droite, enfin, à de rares exceptions. Donc, il naît par les hasards de l'histoire en 1871 à Auteuil, hein, qui est déjà le 16e arrondissement, et il meurt également rue Hamelin dans le 16e arrondissement. Or, ces deux épisodes majeurs, si j'ose dire, il passe l'essentiel de son existence dans le 8e arrondissement, boulevard Malesherbes, boulevard Haussmann, et c'est là que son réseau de sociabilité se développe, prospère. Il ne quittera que très rarement, effectivement, ces quelques rues.
Et Proust n'est pas un piéton de Paris, hein, comme Diderot, comme Rétif de la Bretonne ou Léon Paul Fargue.
Non, il n'a pas besoin, effectivement, d'arpenter la ville pour s'en nourrir. Et d'ailleurs, la géographie de Proust est davantage sociologique, littéraire, que le résultat d'une expérience de terrain, si j'ose dire.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, Anne Lorsol, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ? Comment vous avez choisi de nous montrer le Paris de Proust ? Et Proust à travers Paris aussi.
Alors, le Paris de Proust commence dans l'exposition avec le moment où sa famille maternelle, les Veilles, quitte l'Alsace et s'installe à Paris pour fonder une manufacture de porcelaine, puis une manufacture de boutons dans le 10e arrondissement. Donc l'exposition commence à ce moment-là et montre ensuite l'ascension de cette famille dans Paris en suivant le fil des différentes adresses. Jusqu'au moment effectivement où Adrien Proust épouse Jeanne Veille et où naît le petit Marcel, qui est un enfant qui est tout à fait... emblématique de l'ascension sociale de ces élites libérales sous la Troisième République. Donc l'exposition montre beaucoup de documents, de photographies extrêmement touchantes car intimes de Proust et de sa famille à différents moments de leur existence, également des tableaux, des extraits de films, l'excellent documentaire de Roger Stéphane qui s'appelle Proust Portrait Souvenir, où on voit des proches de Proust, Paul Morand, Cocteau, qui racontent leur Proust. Et puis, effectivement, différentes œuvres d'art qui donnent à voir des vues de Paris telles que Proust l'a vécu, c'est-à-dire une ville, une capitale qui était à ce moment de son rayonnement culturel, politique, intellectuel.
C'est vraiment le centre du monde, hein, Paris à l'époque. Et les riches sont très très riches, hein, dans les romans de Proust. Ils vivent dans des hôtels particuliers somptueux, entourés et servis par des dizaines de domestiques. Les inégalités étaient bien plus grandes qu'aujourd'hui. Hein.
Je ne sais pas si les inégalités étaient beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les riches avaient les moyens de vivre à Paris d'une manière très ostentatoire. Et le fameux faubourg Saint-Germain dont Proust parle, hein, qui correspond à une réalité dans le 7e arrondissement, ne se trouve pas dans la seconde partie du 19e siècle sur la rive gauche, mais par un fait un peu curieux, sur la rive droite. Puisque justement, à partir du milieu du Second Empire, on constate un déplacement des élites économiques vers l'ouest de Paris. Et ces grandes familles que Proust va rêver d'approcher, hein, les Grammont, les Gréfulles, vont faire construire des hôtels particuliers absolument gigantesques sur la rive droite, entre la rue Saint-Honoré et le parc Monceau, dans ce qui constitue à l'époque le cœur du Paris moderne.
Hein. On les voit d'ailleurs, hein, tous ces palais en photo dans votre exposition.
On voit
aussi
oui.
les gens qui ont inspiré à l'écrivain ces personnages. Mais vous, Anne Lorsol, de quoi êtes-vous la plus fière dans cette exposition ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver ?
Ce dont je suis la plus fière, c'est d'avoir effectivement réussi à réunir toutes ces photographies familiales, en fait, hein, qui incarnent énormément l'écrivain. À tort, il me semble, À la recherche du temps perdu est considéré comme un roman intimidant, alors que les portes d'entrée vers cet univers extraordinaire sont très nombreuses. Le choix de Paris, justement, pour faciliter la rencontre avec l'œuvre, fonctionne extrêmement bien dans l'exposition, puisqu'il permet à des gens qui s'intéressent à l'histoire de Paris à la fin du 19e siècle, à l'histoire de Proust en ayant une connaissance un petit peu parfois éloignée ou fausse aussi, de rentrer de plein pied dans ce monde merveilleux que l'écrivain a fait vivre et qui disparaît après la Première Guerre mondiale.
Le thème de l'homosexualité masculine et féminine traverse l'œuvre de Proust. À la différence des autres pays d'Europe, elle n'était pas interdite en France, hein, même si elle était surveillée. Est-ce que c'est facile à illustrer ça ?
Alors, oui, c'est pas si difficile. Alors, on peut l'illustrer déjà de manière extrêmement littérale, puisque vous savez que Proust a été interpellé dans une maison close qui se trouvait près de chez lui, rue de l'Arcade, l'hôtel Marigny, hein, qui existe toujours, mais qui est devenu un hôtel tout à fait respectable. Donc, cet hôtel Marigny, Proust s'y trouve le 11 janvier 1918, en compagnie de jeunes soldats permissionnaires. Et il va faire l'objet d'un procès-verbal, Marcel Proust, 46 ans, rentier. Mais cet épisode n'aura pas de suite ou de conséquence, ce qui ne sera pas le cas du tenancier Albert Lecusia, qui était le modèle de Jupien, vous savez, dans La Recherche. Donc, illustrer l'homosexualité masculine et féminine à la fin du 19e siècle n'est pas si facile, en revanche, pour ce qui est des représentations. Mais dans l'exposition, nous avons quand même réussi à montrer que tout cela avait une réalité.
Proust, un roman parisien, c'est jusqu'au 10 avril 2022 au Musée Carnavalet. Merci Anne Lorsol d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. On se retrouve le samedi 8 janvier à 9h. Tout de suite, le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Sonia Mabrouk.
Ah. Bonjour Frédéric, notre invité pour le grand rendez-vous sera Manuel Valls. Et pour l'interroger, je suis entourée de Nicolas Barré et de Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.